Audible Studio présente La roue du temps, tome 8. Le chemin des dagues, de Robert Jordan. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet. Lu par Arnaud Leridan. Qui veut dîner avec les puissants doit d'abord gravir le chemin des dagues. Aphorisme anonyme inscrit en marge d'un manuscrit historique, remontant probablement au temps d'Arthur L. de Faucon, sur les derniers jours des conclaves de Tovan. Dans les hautes sphères, tous les chemins sont pavés de dagues. Antique proverbe séanchanien. Prologue. Des apparences trompeuses. Étainiel avait déjà vu des montagnes plus basses que ces collines noires si mal nommées. Une vaste étendue d'énormes rochers à demi enterrés, sillonnés par tout un labyrinthe de cols sinueux en pente raide. Face à certains d'entre eux, un bouquetin lui-même aurait eu quelques hésitations. Dans cette alternance de forêts ravagées par la sécheresse et de prairies à l'herbe brunie par la chaleur, on pouvait avancer 3 jours de suite sans apercevoir l'ombre d'une ferme, puis se trouver soudain à une demi-journée de marche de 7 ou 8 minuscules villages aussi ignorants les uns que les autres du reste du monde. Pour des fermiers, les collines noires, très éloignées des routes commerciales, étaient depuis toujours un environnement inhospitalier, et ça se révélait encore plus vrai ces derniers temps. Au sommet d'une pente abrupte, à moins de 40 pas de distance, un léopard famélique qui aurait dû détaler à l'approche de la colonne observait au contraire attentivement Étainiel et les cavaliers en armure de son escorte. À l'ouest, en dignes oiseaux de mauvais augure, des vautours décrivaient de grands cercles dans le ciel. Pas un nuage n'occultait le soleil rouge sang, et pourtant, le toit du monde n'était pas limpide. Car dès qu'il soufflait, le vent brûlant soulevait de véritables murailles de poussière. Avec 50 de ses meilleurs hommes pour la protéger, Étainiel chevauchait sans angoisse ni hâte particulière. Contrairement à son ancêtre Sourasa, quasiment une légende, elle n'imaginait pas que le climat se plierait à sa volonté, simplement parce qu'elle siégeait sur le trône des nuages. Quant à se presser, soigneusement codées et gardées secrètes, les lettres que les participants à cette aventure avaient tous échangées déterminaient un ordre de marche tenant compte de leur besoin de voyager discrètement. Rien de très facile en vérité, et même un défi impossible pour certains esprits. Sourcils froncés, Étainiel songea à la chance qu'elle avait eue d'arriver jusque-là sans avoir dû tuer quelqu'un. Bien sûr, pour ça, elle avait évité les grappes de petits villages, même quand ça impliquait des jours de voyage supplémentaires. Les sanctuaires des Augiers n'avaient posé aucun problème. Par nature, les bâtisseurs se souciaient très peu de ce qui advenait entre les humains, et ces derniers temps, cette tendance s'était encore accentuée. Mais les villages, bien sûr, ils étaient trop petits pour abriter des agents de la Tour Blanche, ou pour intéresser l'homme qui se faisait appeler le dragon réincarné, et qu'il l'était peut-être bien. Étainiel n'aurait su dire quelle option pouvait être la pire. Mais ça n'empêchait pas des colporteurs de les traverser régulièrement. Ces vendeurs itinérants transportaient au moins autant de ragots que de marchandises, et ils parlaient à des gens qui s'empressaient d'aller bavasser dans les oreilles d'autres personnes. Ainsi, les rumeurs, comme les confluents d'une rivière, se déversaient dans toutes les collines noires, puis dans le monde extérieur. Avec quelques mots, un berger insignifiant pouvait allumer un grand feu de signalisation, visible à 500 lieues de distance. Le genre de brasier capable de consumer des forêts et des prairies entières, voire des villes ou des nations.
« Seraya, ai-je fait le bon choix ?»
Fâchée contre elle-même, Étainiel fit la moue. Si elle n'avait plus rien d'une jeune fille, ses quelques cheveux gris ne l'autorisaient pas pour autant à radoter comme une vieille femme. La décision était prise, et elle l'avait mûrement réfléchie. Mais pour tout dire, sous le regard de la lumière, elle ne se sentait pas si peu angoissée que ça. En tout cas, pas autant qu'elle l'aurait voulu. Seraya talonna sa jument Louvette afin qu'elle avance à côté du hongre noir élancé de la reine. Avec son visage rond toujours placide et ses yeux éternellement pensifs, la première conseillère aurait pu être une solide fermière, brusquement affublée d'une robe d'équitation de noble dame. Mais derrière ses traits plus qu'ordinaires, et présentement ruisselant de sueur, se cachait un esprit aussi vif que celui de n'importe quel Aes Sedai.
« Majesté, les autres possibilités impliquaient des risques différents, mais pas moins nombreux, »
dit Seraya d'un ton égal. Aussi gracieuse qu'une écuyère sur sa selle, malgré sa corpulence, la conseillère était d'une équanimité à toute épreuve, sans se montrer pour autant mielleuse ou hypocrite. Non, un parangon d'imperturbabilité, tout simplement.
« Quelle que soit la vérité, la Tour Blanche semble bel et bien être désunie et paralysée. Vous auriez pu rester à contempler la flétrissure, pendant que le monde s'écroulait dans votre dos. Si vous étiez quelqu'un d'autre. »
Le besoin primal d'agir, c'était pour ça qu'Étainiel était ici.
Si la Tour Blanche ne voulait ou ne pouvait pas faire ce qui s'imposait, il fallait bien que quelqu'un s'en charge, non? À quoi bon surveiller la flétrissure si le monde s'écroulait dans son dos? Étienne jeta un coup d'œil à l'homme mince qui chevauchait sur son autre flanc. Ses tempes striées de blanc lui conférant un air supérieur, il portait dans le creux d'un bras l'épée de Kiroukan, rangée dans son fourreau richement ornementé. L'épée de Kiroukan? Eh bien, c'était ainsi qu'on la nommait. Et la légendaire reine guerrière de l'Aramaël aurait très bien pu la brandir. Très ancienne, l'arme avait été forgée par le pouvoir, d'après ce qu'on disait. Ainsi que l'exigeait la tradition, la longue poignée à deux mains était orientée vers Étienniel, même si elle n'était pas du genre à jouer de la lame comme une vulgaire écervelée du Saldaïa. Une reine avait mission de réfléchir et de donner des ordres, et il était impossible de le faire tout en ferraillant, avec moins de compétences que le dernier des soldats, bien entendu.
« Et toi, porteur de l'épée ?»
demanda Étienniel au cavalier.
« As-tu des choses à redire, à ce stade avancé des opérations ?»
Le seigneur Baldéré se retourna sur sa selle ornementée d'or pour jeter un coup d'œil au porte-étendard qui chevauchait derrière le trio de têtes, leurs drapeaux rangés dans des étuis de cuir et de velours brodés.
« Majesté, je n'aime pas dissimuler mon identité, »
dit le seigneur d'un ton pincé, en regardant de nouveau devant lui.
« Très bientôt, le monde saura qui nous sommes et ce que nous avons fait. Nous finirons raide mort ou dans l'histoire, ou les deux en même temps. Alors, autant que les gens sachent quel nom écrire sur nos tombes. »
Doté d'une langue acérée, Baldéré faisait mine de s'intéresser par-dessus tout à la musique et à ses vêtements. De fait, il avait déjà changé trois fois de veste aujourd'hui. Mais comme avec Seraya, les apparences étaient trompeuses. Le porteur de l'épée du trône des nuages était accablé de responsabilités bien plus pesantes que l'épée et son fourreau incrusté de pierreries. Depuis la mort du mari d'Étienniel, une vingtaine d'années plus tôt, Baldéré commandait l'armée du Candor au nom de la reine. Et presque tous ses soldats l'auraient suivi jusqu'au cœur du mont Chagalgoul. S'il ne figurait pas parmi les plus grands chefs de guerre, cet homme savait quand il fallait se battre et quand il valait mieux l'éviter. Et dans le premier cas, il excellait dans l'art de remporter la victoire.
« Le point de rendez-vous ne doit pas être loin, »
dit soudain Seraya. À l'instant même, Étienniel aperçut l'homme que Baldéré avait envoyé en éclaireur. Nommé Lomas, ce soldat au casque orné d'une crête en forme de tête de renard venait d'apparaître au sommet d'une butte, droit devant la colonne. Sa lance inclinée, il fit le signal indiquant que le lieu de rendez-vous était en vue. Baldéré se tourna sur la selle de son hongre massif, cria aux hommes de s'arrêter. Quand ça lui chantait, il avait une voix de stentor, puis il talonna sa monture pour attraper la reine et sa conseillère. Alors qu'il s'agissait d'une rencontre entre des alliés de longue date, Baldéré lâcha un ordre sec à Lomas quand il passa devant lui.
« Ouvre l'œil et réagis !»
En d'autres termes, si les choses devaient tourner mal, il faudrait envoyer l'escorte au secours de la reine. Étienniel eut l'ombre d'un soupir quand elle vit Seraya approuver cet ordre du chef. Des alliés de longue date, certes, mais le temps attirait les soupçons sur les plus solides amitiés, un peu comme un tas de fumier attire les mouches. Et ce qu'il se préparait à faire risquait fort de remuer le fumier et de faire s'envoler les mouches. Ces dernières années, trop de dirigeants au sud étaient morts ou avaient soudain disparu pour qu'on puisse se sentir à l'aise avec une couronne sur la tête. Et trop de pays avaient été rasés aussi radicalement qu'aurait pu le faire une armée de Trollocs. Qui qu'il soit vraiment, Altor devrait répondre de beaucoup de choses. Beaucoup, oui. Derrière Lomas, la passe donnait sur une vallée presque trop étroite pour être digne de ce nom et semée d'arbres bien trop espacés les uns des autres pour avoir droit à l'appellation de bosquet. Si les lauréoles, les sapins et les pins conservaient encore un peu de verdure, tout comme quelques chênes, tous les autres arbres arboraient des feuillages jaunis, voire des branches totalement dénudées. Un peu plus loin, au sud, se dressait la curiosité naturelle, ayant motivé le choix de cet endroit pour la rencontre. Une flèche de pierre élancée, qui évoquait une colonne de dentelle dorée brillant sous le soleil. Très nettement inclinée, et en partie enfouie dans le sol aride d'un flanc de colline, elle dépassait cependant la cime des arbres de 70 bons pieds. Dans les collines noires, tous les enfants assez grands pour ne plus être attachés par une laisse à la jupe de leur mère connaissaient cette curiosité. Mais il n'y avait pas un village alentour à moins de 4 jours de voyage, et personne ne se serait approché de la flèche volontairement. En tout cas, pas à moins de 4 lieues de distance. Au sujet de cet endroit, des rumeurs parlaient de visions qui rendaient fous, de cadavres ambulants et de téméraires morts sur le coup pour avoir touché la flèche. Bien qu'elle ne se tînt pas pour superstitieuse, Étienniel ne put s'empêcher de frissonner. Selon Nian, la flèche était un vestige de l'âge des légendes, une relique parfaitement inoffensive. Avec un peu de chance, Aes Sedai n'aurait pas souvenir de cette conversation remontant à des années. Vraiment, il était dommage que les morts ne puissent pas être réveillés ici. D'après une légende, Kirukan avait décapité de ses mains un faux dragon, puis porté les deux fils d'un autre homme capable de canaliser le pouvoir. Ou du même type, peut-être. Cette femme aurait su leur dire comment arriver à leur fin, en restant entier. Comme prévu, les deux premières personnes qu'Ethaniel venait voir étaient déjà là, chacune avec deux assistants. Désormais, Peitar Nachiman avait bien plus de rides sur son visage long que le bel homme d'âge mûr qu'elle admirait étant jeune fille. Sans mentionner ses cheveux trop rares et plus que grisonnants. Fort judicieusement, il avait renoncé à la mode des tresses en vigueur en Arafel et portait une sorte de brosse. Cela dit, il se tenait très droit sur sa selle, sa veste verte brodée n'avait pas besoin de rembourrage aux épaules, et il restait capable, la reine le savait, de manier l'épée avec toutes les compétences et la vigueur de sa défunte jeunesse. Et Asar Togita, le crâne rasé à l'exception d'un toupet blanc comme neige au sommet, portait une veste couleur bronze des plus ordinaires. Plus petit d'une bonne tête que le roi d'Arafel, et moins bien charpenté, il l'aurait pourtant presque fait passer pour un doux agneau. Et Asar du Chiennard n'avait pas l'air menaçant, plutôt vaguement mélancolique, comme toujours. Mais il aurait pu être fait du même métal que l'épée accrochée dans son dos. Ethaniel se fiait à ces deux hommes, et elle espérait que leurs liens familiaux renforceraient cette confiance. Depuis toujours, les mariages soudaient les liens entre les pays des terres frontalières au moins autant que leur guerre incessante contre la flétrissure. Une fille d'Ethaniel était mariée au troisième fils des Hassar, et un de ses fils avait épousé la petite-fille préférée de Peitar. Un frère et deux sœurs unis à des parents des deux hommes venaient compléter le tableau. Les assistants étaient aussi dissemblables les uns des autres que leur roi. Comme toujours, Ishigari Terasian semblait à peine remis d'une gueule de bois phénoménale. Éléphantesque, il débordait de sa selle. Sa belle veste rouge était toute froissée, et il arborait une barbe de 3 jours sous son regard chassieux. Grand et mince, Kirill Shianri aurait pu disputer un concours d'élégance contre Balderé. Des clochettes d'argent accrochées au revers de ses bottes, à ses gants et dans ses tresses, il était couvert de poussière et ruisselant de sueur. Ce n'était pourtant pas l'explication de son expression maussade, car il ne s'en défaisait jamais, tout comme de sa façon de regarder tout le monde de haut, à part son roi. Si on allait au fond des choses, Shianri était un crétin. En Arafel, les rois daignaient rarement écouter leurs conseillers, car ils préféraient s'en remettre à leur épouse. Mais il valait tout de même mieux que son apparence le laissait penser. Agelmar Jagad, lui, aurait pu être une version plus grande et plus large des Hassar. Un homme très simple, banalement vêtu, mais laissé de plus d'armes encore que Balderé. La mort attendant de frapper, en d'autres termes. Aussi fluette que Seraya était corpulente, Alessune Tchoulin se distinguait par sa beauté et son caractère bouillant. Deux caractéristiques qu'elle ne partageait pas avec la conseillère d'Ethaniel. Franchement ordinaire et radicalement imperturbable. À première vue, Alessune semblait née pour parader dans ses jolies robes de soie bleue. Mais la juger à son apparence, exactement comme pour Seraya, aurait été une grossière erreur.
Que la paix et la lumière soient avec toi, Ethaniel du Candor,
marmonna et Asar, lorsque la reine se fut arrêtée devant les 6 cavaliers.
Puisse la lumière t'étreindre chaudement, Ethaniel du Candor,
s'exclama Peitar. Il avait toujours le genre de voix qui fait battre plus vite le cœur des femmes. Pourtant, son épouse savait qu'il était à elle de la pointe des cheveux jusqu'au bout de ses bottes. De sa vie, Menuki n'avait jamais rien dû éprouver qui ressemblât de près ou de loin à de la jalousie. Tout simplement parce qu'elle n'en avait pas eu l'occasion. Ethaniel sacrifia au protocole, aussi brièvement que ses deux interlocuteurs. Puis elle demanda, sans embâge, s'ils avaient pu arriver jusque-là sans se faire remarquer. Et Asar grogna, se pencha sur sa selle, et foudroya la reine du regard. Un homme de fer, mais veuf depuis 11 ans, et le cœur toujours brisé par son deuil. Dans le temps, il écrivait des poésies pour sa femme. Vraiment, il ne fallait jamais se fier aux apparences.
Si on nous a vus, Ethaniel, nous pouvons tout aussi bien repartir sur le champ.
Tu parles déjà de repartir ?
Bien que son ton et sa façon de tirer sur ses rênes n'aient rien eu de courtois, Shianri parvint à conserver assez de civilité, ou plutôt de vernis de courtoisie, pour éviter d'être défié en duel. Cela dit, Agelmar le regarda sans aménité, bougeant légèrement sur sa selle comme s'il était en train de recenser toutes les armes qu'il portait sur lui. Des alliés de longue date. Lors d'innombrables batailles, le long de la flétrissure. Certes, mais il y avait tous ses soupçons. Alessune fit frémir sa jument grise aussi massive qu'un cheval de guerre. Les mèches blanches de ses longs cheveux noirs évoquèrent soudain la crête d'un casque, et à voir briller son regard, On aurait très bien pu oublier que les femmes, au Chiennard, ne s'entraînaient pas au maniement des armes et ne disputaient pas de duels. En titre, elle n'était que la chatayanne de la maison royale. Mais là encore, croire que son influence se limitait aux cuisinières, aux serviteurs et aux fournisseurs aurait été une tragique erreur.
Seigneur Chianri, l'inconscience n'est pas le courage. Nous avons laissé la flétrissure sans surveillance, et si nous échouons, voir si nous réussissons. Certaines de nos têtes risquent de finir fichées au bout d'une pique, et peut-être même toutes. Si Altor ne s'en charge pas, la Tour Blanche peut vouloir le faire à sa place.
« La flétrissure semble assoupie, » murmura Terracian. « Je ne l'ai jamais connue si paisible. »«
Les ténèbres ne dorment jamais, » dit Jagad.
Terracian acquiesça, comme si ça lui semblait une évidence. Aghelmar était le meilleur général du lot, et peut-être un des plus grands de tout le monde connu. Mais Terracian n'était pas devenu le bras droit de Peytar uniquement parce qu'il savait lever le coude mieux que quiconque.
« Les forces que j'ai laissées derrière moi peuvent contrôler la flétrissure. »
intervint Éteniel.
Sauf si les gardes et Trolloc devaient recommencer. Et je suis sûr que vous avez tous fait comme moi. De toute façon, ça n'a aucune importance. Quelqu'un pense sérieusement que nous pouvons rebrousser chemin maintenant ?
Rebrousser chemin ?
Lança une voix de femme dans le dos d'Éteniel. La reine Ténobia du Saldaea fit ruer son hongre blanc, histoire que son arrivée soit remarquée. Les manches de sa robe d'équitation ornées de lignes de perles blanches, elle arborait des broderies or et jaune sur la poitrine et autour de la taille. Une façon de souligner l'opulence de l'une et la finesse de l'autre. De très haute taille pour une femme, elle réussissait à paraître jolie, malgré un nez franchement proéminent. Ses grands yeux bleus inclinés y étaient sans doute pour quelque chose. Mais l'essentiel tenait à son extraordinaire confiance en soi, qui lui faisait comme une aura. Bien entendu, la reine du Saldaea n'avait qu'un seul compagnon, Kaylan Ramsin, un de ses innombrables oncles. Grisonnant, le visage couvert de cicatrices, cet homme avait un regard d'aigle au-dessus de sa moustache incurvée. En matière de conseiller, Ténobia Khadzadi ne supportait que des guerriers endurcis.
« Je ne ferai pas demi-tour, »
dit-elle d'une voix vibrante de ferveur.
« Qu'importe ce que vous ferez, tous autant que vous êtes. J'ai chargé mon très cher oncle d'Avram de me rapporter la tête de Mazrim Taïm. Et voilà que ce faux dragon et lui sont fidèles à ce maudit Altor. Si je dois en croire ce qu'on raconte. J'ai près de 50 000 hommes avec moi, et quoi que vous décidiez, je ne rebousserai pas chemin avant que mon oncle et Altor sachent très exactement qui dirige le Saldaea. »
Pendant que Peytar et Ehasar assuraient Ténobia que personne ne repartirait, Éteniel consulta du regard Seraya et Baldéré. La conseillère hocha imperceptiblement la tête, et le seigneur roula ostensiblement des yeux. Éteniel n'avait pas vraiment espéré que Ténobia déciderait de renoncer, mais elle aurait mis sa tête à couper que cette jeune femme impétueuse leur vaudrait des ennuis. Au Saldaea, la bizarrerie était très répandue. Pour être franche, Éteniel se demandait comment sa sœur Einon pouvait s'accommoder si bien de son union avec un autre oncle de la reine. Cela posé, en matière d'extravagance, Ténobia battait tous les records. Alors que ses sujets ne travaillaient déjà pas dans la dentelle, elle s'enorgueillissait de faire rougir les domanies et de faire passer les altariens pour des parangons de sérieux. Si le caractère explosif de ses sujets était légendaire, le sien méritait plutôt qu'on le qualifie de volcanique. Et personne ne pouvait dire ce qui était susceptible de provoquer une éruption. Ramener Ténobia à la raison quand elle n'en avait pas envie? Une tâche qu'Éteniel estimait bien au-dessus de ses forces. Seul Davram Bachiré y était parvenu, un jour. Et bien entendu, il y avait l'épineuse question du mariage. Bien qu'encore jeune, Ténobia avait largement dépassé l'âge d'être célibataire. Quand on appartenait à une haute maison, et plus encore lorsqu'on régnait, se marier était un devoir, car il fallait songer aux alliances et à la succession. Pourtant, Éteniel n'avait jamais envisagé d'unir Ténobia à un de ses fils, car les exigences de la reine, en matière de mari, étaient à la hauteur du reste de sa personnalité. Son époux devrait être capable de tailler en pièces une dizaine de myrdraal, et tout ça en jouant de la harpe et en composant un poème. Assez vif d'esprit pour en remontrer à n'importe quel érudit, il faudrait aussi qu'il puisse dévaler à cheval un versant de montagne escarpée, ou le gravir selon les cas. Bien entendu, il aurait aussi intérêt à lui obéir. Après tout, n'était-elle pas une reine? Sauf au moment où elle aurait envie qu'il oublie tout ça, pour la hisser sur son épaule et l'emporter où il voulait. Oui, elle désirait très exactement ça. Et que la lumière protège le pauvre homme s'il hissait sur l'épaule quand elle entendait qu'il obéisse, ou vice-versa. Bien entendu, elle ne formulait jamais si précisément ses exigences. mais aucune femme un peu expérimentée l'ayant entendu parler des hommes ne pouvait avoir le moindre doute sur le sujet. À ce rythme-là, Thénobia quitterait ce monde vieille fille. Du coup, son oncle d'Avram lui succéderait, s'il ne le tuait pas avant. Sinon, ce serait l'héritier ou l'héritière du maréchal. Un nom attira l'attention d'Éthéniel, l'arrachant à sa méditation. Avec de tels enjeux, elle aurait dû se montrer plus attentive.
Les Aes Sedai ? Qu'y a-t-il avec les Aes Sedai ?
Excepté celle de Peïtar, toutes les conseillères issues de la Tour Blanche étaient parties, dès qu'elles avaient eu vent des troubles en cours à Tarvalon. Nian et Aisling, la conseillère des Hassar, s'étaient même volatilisées sans laisser de traces. Si les sœurs se doutaient le moins du monde du plan des quatre souverains des terres frontalières, cela dit, les Aes Sedai avaient toujours de sombres desseins en cours. Simplement, Éthéniel n'avait aucune envie de découvrir qu'elle plongeait les mains dans deux nids de guêpes au lieu d'un. L'air vaguement gêné, Peïtar haussa les épaules. Chez lui, ce n'était pas sans importance. Comme Seraya, il ne laissait pratiquement jamais rien transparaître.
« Éthéniel, dit-il, tu ne peux pas avoir cru que je laisserais Koladara en arrière, même si j'avais pu lui cacher mes préparatifs de départ. »
La reine n'avait jamais cru ça. La sœur favorite de Peïtar était une Aes Sedai, et Kiruna l'avait incité à éprouver une grande affection pour la Tour Blanche. Non, Éthéniel n'avait jamais pensé qu'il laisserait Koladara en arrière, mais elle l'avait espéré.
« Koladara avait des visiteuses, » ajouta Peïtar, « au nombre de 7. Dans les circonstances présentes, les emmener avec nous m'a paru plus prudent. Par bonheur, il n'a pas fallu beaucoup insister pour les convaincre. Aucune n'a résisté, pour tout dire.
« Que la lumière éclaire et préserve nos âmes, » soupira Éthéniel. Elle entendit Seraya et Baldéré lui faire écho.
« 8 sœurs, Peïtar ? Rien que ça ?»
À cette heure, la Tour Blanche devait être au courant de tous leurs plans.
« J'en ai 5 de plus avec moi !»
annonça Thénobia, comme si elle parlait d'une paire de chaussures qu'elle venait d'acquérir.
« Elles me sont tombées dessus au moment où je sortais du Saldaïa. Par hasard, j'en mettrai ma main au feu. D'ailleurs, elles ont eu l'air aussi surprises que moi. Dès qu'elles ont eu découvert ce que je faisais, j'ignore comment elles s'y sont prises, mais elles ont réussi. Je m'attendais à ce qu'elles courent voir mes maras. »
Un éclair rageur passa dans le regard de Thénobia. En lui envoyant une sœur chargée de l'intimider, Elaïda avait fait une sacrée boulette.
« Mais Ilaïsienne et les autres se sont montrés résolus à garder le secret. Autant que moi. Et peut-être même plus.
Peut-être, bougonna Éthéniel.
Mais ça nous fait quand même 13 sœurs. Il suffit que l'une d'entre elles trouve le moyen d'envoyer un message. Quelques lignes seulement. Un soldat ou une servante judicieusement manipulée. Quelqu'un parmi nous pense être capable de les en empêcher ?»«
Les dés ont jailli hors du godet, » dit simplement Peïtar.
En d'autres termes, quand le vin était tiré, il fallait le boire. Du point de vue d'Éthéniel, les natifs de l'Arafel étaient aussi bizarres que ceux du Saldaïa.
« Quand nous serons plus loin au sud, » dit Éassar, « avoir 13 sœurs avec nous sera peut-être une bonne chose. »
Un long silence suivit cette déclaration, dont personne ne voulait formuler à haute voix toutes les implications. Cette affaire n'avait rien à voir avec leur mission habituelle, face à la flétrissure. Thénobia éclata soudain de rire. Son hongre renacla, mais elle le maintint fermement.
« Je veux avancer vers le sud le plus vite possible. Cependant, je vous invite tous à dîner dans mon camp ce soir. Vous parlerez avec Ilaïsienne et les autres, histoire de voir si mon jugement recoupe le vôtre. Demain soir, nous pourrions nous retrouver dans le camp de Peïtar pour interroger les amis de sa chère Koladara. »
Une proposition si raisonnable et d'une si limpide évidence qu'elle fut acceptée instantanément.
« Ah, Éthéniel !»
ajouta Thénobia, comme si elle venait de se rappeler quelque chose.
« Mon oncle Kaylan serait honoré d'être assis près de toi ce soir. Il t'admire beaucoup. »
Éthéniel jeta un coup d'œil à Kaylan Ramsin. Se tenant derrière Thénobia, il n'avait pas dit un mot, semblant à peine respirer, tant il avait tout d'une statue. Mais quand leurs regards se croisèrent, Éthéniel vit dans celui du guerrier quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis la mort de son cher Brice. Cette lueur particulière, indiquant qu'un homme ne la regardait pas comme une reine, mais comme une femme. Prise de court, elle en eut le souffle coupé. Avec un petit sourire satisfait, Thénobia regarda successivement son oncle et la reine du Condor. Éthéniel faillit s'étouffer d'indignation. Le sourire aurait vendu la mèche si les yeux de Kaylan ne l'avaient pas fait avant. Cette chipie envisageait de lui faire épouser ce type ? une sale gamine se permettait de... Sans crier gare, la mélancolie chassa la colère. Éthéniel était plus jeune que Ténobia, lorsqu'elle avait arrangé le mariage de sa sœur Nazel avec le seigneur Ismic. La raison d'état, toujours. Mais au bout du compte, et malgré toutes ses protestations, Nazel avait fini par s'éprendre de son époux. À force de jouer les marieuses, la reine avait fini par considérer que ses propres noces ne l'engageraient pas à grand-chose. Dubitative, elle regarda de nouveau Caïlan. Son visage buriné n'exprimait plus qu'un respect de bon aloi, mais elle revit son regard si particulier. L'époux qu'elle se choisirait devrait être un homme d'acier, bien entendu. Cela dit, quand elle mariait ses enfants, contrairement à ses frères et sœurs, Éthéniel faisait toujours en sorte qu'ils aient au moins une chance de connaître l'amour. Et elle n'allait sûrement pas être moins exigeante en ce qui la concernait.
« Au lieu de perdre du temps à discutailler, »
dit-elle, le souffle toujours un peu court à son goût.
« Si nous agissions enfin,
que la lumière carbonise son âme. » Elle était une adulte, pas une adolescente qui vient de rencontrer un éventuel soupirant.
« Qu'en dites-vous ? »
insista-t-elle d'un ton plus ferme. Tous les accords préalables avaient été scellés dans les fameuses lettres codées. Bien entendu, à mesure qu'ils avanceraient vers le sud, leur plan devrait être ajusté au gré des circonstances. En réalité, ce rendez-vous n'avait qu'un objectif, célébrer une antique et simple cérémonie des terres frontalières qui avait eu lieu 7 fois seulement, depuis la dislocation du monde. Une cérémonie très simple, certes, mais qui les lierait les uns aux autres davantage que tous les serments, si puissants soient-ils. Les 4 souverains firent s'approcher leurs montures, et les assistants s'écartèrent. Quand elle s'entailla la paume gauche avec son couteau, Éthéniel exhala un soupir. Ténobia taillada la sienne en riant, Peïtar et Éassar restant impassibles comme s'ils s'arrachaient une vulgaire écharde de bois de la chair. Puis 4 mains se tendirent et se touchèrent, leur sang se mêlant avant de venir s'écraser dans la poussière.
« Nous ne faisons plus qu'un, et jusqu'à la mort. »
Liés les uns aux autres par le sang et par le sol, il ne leur restait plus qu'à trouver Randaltor, puis à faire ce qui s'imposait, quel que soit le prix à payer. Dès qu'elle fut sûre que Turana pourrait s'asseoir sans aide sur le coussin, Vérine se leva et laissa la sœur blanche prostrée boire son eau par petites gorgées. Ou essayer, en tout cas, car ses dents cognaient contre la coupe d'argent, ce qui n'avait rien d'étonnant. Le rabat de la tente n'étant pas bien haut, Vérine dut se plier en deux pour glisser la tête dehors. Bien entendu, ce mouvement raviva la douleur qui lui vrillait les reins. Elle ne redoutait en rien la femme en robe noire ordinaire qui tremblait de tous ses membres dans son dos. D'abord parce qu'elle maintenait fermement le bouclier qui l'isolait de la source. Ensuite, parce qu'elle doutait que Turana ait assez de force dans les jambes, dans son état, pour simplement envisager de lui sauter dessus, en supposant qu'une idée si extravagante puisse lui traverser l'esprit. Les sœurs blanches ne réfléchissaient pas comme ça. Enfin, mal en point comme elles l'étaient, Turana n'aurait sans doute pas pu canaliser un filament de pouvoir, même si un bouclier ne l'avait pas coupé du Saïdar. Le camp des Aiel couvrait toutes les collines derrière lesquelles se dressait Kyrienne. Partout, des tentes couleur ocre emplissaient l'espace entre les rares arbres encore debout, à cette courte distance de la ville. Quelques nuages de poussière flottaient dans l'air, mais comme la chaleur et les assauts d'un soleil brûlant, ce n'était pas de nature à déranger les Aiel. À l'instar d'une banale cité, le camp grouillait d'activité. Dans tous les coins, des hommes dépeçaient le gibier, réparaient les tentes, aiguisaient des couteaux ou fabriquaient les curieuses bottes souples que portaient tous les Aiel. Les femmes cuisinaient sur des feux de camp, surveillaient la cuisson du pain dans des fours en terre improvisés, tissaient sur de petits métiers de voyage ou surveillaient la poignée d'enfants qui accompagnaient les guerriers. Partout, des gaïchaïnes en robe blanche ployaient sous le poids d'un vraisemblable fardeau, battaient frénétiquement des tapis ou s'occupaient des mules et des chevaux de bât. Pas de colporteur ni de boutiquier, et pas davantage de charrettes ou de carrosses. Une ville, plutôt un bon millier de villages massés les uns à côté des autres. Mais ici, les hommes étaient beaucoup plus nombreux, et presque tous, à part les forgerons qui frappaient sur leur enclume, et les gaïchaïnes, bien sûr, étaient armés jusqu'aux dents. Les femmes aussi, d'ailleurs. Assez de gens pour égaler le nombre d'habitants de n'importe quelle mégalopole, et pour noyer dans la masse quelques Aes Sedai prisonnières. Pourtant, Vérine repéra une femme en robe noire qui avançait péniblement, entraînant une grosse pile de pierres sur une peau de bœuf. La capuche dissimulait ses traits, mais dans le camp, seules les sœurs prisonnières portaient du noir. L'aura du pouvoir l'enveloppant, la matriarche qui isolait l'Aes Sedai de la source la suivait à quelques pas. Derrière les deux promises qui n'hésitaient jamais à stimuler la sœur avec leur badine, chaque fois qu'elle ralentissait le pas. Vérine se demanda si ce spectacle n'était pas organisé à son intention. Le matin même, elle avait vu Coiren Saldane, le visage ruisselant de sueur, gravir péniblement une pente avec sur le dos un énorme panier rempli de sable. Là aussi, une matriarche suivait la prisonnière, également flanquée de deux aïels aux épaules de colosse. La veille, c'était Saren Nemdal qui assurait la représentation. Chargée de transvaser à main nue l'eau d'un seau dans un autre seau, une corvée absurde, afin d'être encore plus humiliante, elle recevait des coups de badine chaque fois qu'elle traînait les pieds, et dès qu'elle renversait une seule goutte, en tentant d'avancer trop vite. Au mépris des risques, Saren s'était arrêtée un instant pour demander à Vérine pourquoi elle subissait un sort pareil. À l'évidence, elle n'espérait pas obtenir une réponse, et les inévitables promis s'étaient empressés de caresser les côtes de leur victime, bien avant que Vérine ait pu commencer à en formuler une. L'Aes Sedai étouffa un soupir. Malgré tout, elle n'aimait pas voir des sœurs subir un tel traitement, si nécessaire et justifié fut-il. Mais il y avait davantage que ça. À l'évidence, un grand nombre de matriarches entendaient... Quoi donc ? Lui faire saisir qu'être une sœur comptait pour du beurre dans ce camp ? Absurde. Ce point avait été abondamment précisé des jours plus tôt. Ces femmes voulaient-elles faire comprendre à Vérine qu'elle pouvait très bien finir dans une robe noire, elle aussi ? Pour l'instant, ça ne semblait pas d'actualité. Mais les matriarches gardaient jalousement un grand nombre de secrets que la sœur aurait volontiers percés à jour. Parmi ces secrets, le moins important concernait la manière dont fonctionnait leur hiérarchie. Un sujet des plus secondaires, sauf pour quelqu'un dont la vie risquait bien d'en dépendre. Mais comment s'y retrouver ? Parfois, des femmes venaient prendre leurs ordres auprès d'autres femmes à qui elles avaient un peu plus tôt donné des instructions. Puis le rapport de force s'inversait, toujours sans rime ni raison. Cela dit, personne ne commandait sur Iléa, et c'était peut-être la clé de la sécurité pour Vérine. Enfin, d'une sécurité relative. La sœur ne put étouffer un fort sentiment de satisfaction. Le matin même, au Palais du Soleil, Sor Iléa avait voulu savoir ce qui humiliait le plus les gens de Terre Mouillée. Kiruna et les autres sœurs n'avaient pas compris le sens de cette question. Peut-être par peur de ce qu'elles risquaient d'apprendre, ou par crainte, si elles savaient, de la pression que subirait alors leur serment, elles ne faisaient aucun effort pour voir ce qui se passait hors du palais. Alors que le destin les avait poussées sur un chemin, elles se débattaient toujours pour se justifier de l'avoir pris. Vérine, elle, avait d'excellentes raisons de suivre la voie qu'elle suivait, et elle poursuivait un objectif bien précis. Dans sa bourse, elle gardait une liste qu'elle remettrait à Sor Iléa dès qu'elle serait seule. Inutile que les autres sachent. Parmi les prisonnières, plusieurs lui étaient inconnues, mais pour la plupart d'entre elles, la liste récapitulait bien les faiblesses que Sor Iléa recherchait. Pour les femmes en noir, la vie allait devenir beaucoup plus difficile. En revanche, les efforts de Vérine avaient une bonne chance d'être récompensés. Deux grands aïels, chacun portant une hache en travers des épaules, étaient assis devant la tente. Concentrés sur un jeu de ficelles, ils avaient cependant levé les yeux dès que Vérine avait mis la tête dehors. Puis Koram s'était levé d'un bond et Mendan l'avait imité, après avoir rangé la ficelle dans les plis de ses vêtements. Si elle avait été debout, le sommet du crâne de Vérine aurait à peine atteint la poitrine des deux hommes. Pourtant, elle aurait pu les renverser cul par-dessus tête et leur flanquer une fessée, si elle avait osé. À l'occasion, résister à la tentation s'était avéré difficile. Koram et Mendan. Ses guides, chargés de la préserver de tout malentendu éventuel dans le camp, et de rapporter à qui de droit ses actes et ses propos. En un sens, elle aurait préféré avoir Thomas à ses côtés. Mais en un sens seulement. Cacher des choses à son champion était bien plus compliqué que rouler dans la farine deux parfaits inconnus.
« Koram, veux-tu aller dire à Kolinda que j'en ai terminé avec Turana Noril ? Elle a prié de m'envoyer Catherine Alruddin ?»
Vérine entendait s'occuper d'abord des sœurs dépourvues de champions. Sans répondre et en hochant à peine la tête, Koram s'éloigna. Décidément, la courtoisie et les aïels ne faisaient pas bon ménage.